Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du livre de Bernard Barthes, Richesse d'un prince et bien commun au XVIIIe siècle. Alors, tout d'abord, bonjour Bernard.
Bonjour.
Voilà, Bernard, vous avez présenté donc décidé de présenter ce livre à la librairie Mola. Vous êtes docteur en sciences et religions de l'école pratique des hautes études.
Oui.
Et donc, vous avez écrit différents ouvrages sur des sujets qui touchent à l'économie, à la religion, à l'ésotérisme, notamment « S'enrichir en dormant »,« L'argent et les religions »,« Sciences, histoire et thématiques ésotériques chez les jésuites en France ». Donc là, vous avez décidé de travailler sur l'économie et la société dans les mémoires de Trévoux. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de ce que c'est que les mémoires de Trévoux ?
Les mémoires de Trévoux, c'est vrai que ce n'est pas très connu. C'est connu un peu des spécialistes, mais ce n'est pas très connu du grand public, malheureusement. C'est une revue qui a été créée au tout début du XVIIIe siècle, en 1701, qui a démarré en 1701, à l'initiative de Louis XIV, et qui est totalement spécifique dans le paysage des jésuites en Europe. C'est spécifique à la France. Alors, pourquoi ça a été créé et pourquoi ça a été confié aux jésuites et en quoi ça consiste ? Ça a été créé parce que... Vous savez probablement que l'époque du tournant du XVIIIe siècle, c'est-à-dire toute fin du XVIIe et début du XVIIIe, en France, a été particulièrement agitée. C'est la préparation des Lumières, mais ce qu'on n'appelle pas encore les Lumières, mais c'était une époque très troublée sur à peu près tous les plans, que ce soit politique, économique bien sûr, avec les questions de la dette, religieux, et de la pensée en général, de la culture en général. Et parmi les phénomènes religieux, les difficultés religieuses étaient très importantes, particulièrement importantes, avec la querelle, elle tournait autour de la querelle du jansénisme. Or, Louis XIV et son entourage étaient totalement, je ne vais pas dire tétanisés, mais enfin très, très préoccupés par ces questions. Ils voyaient des jansénistes un peu partout, et c'est vrai, il y en avait un peu partout, mais surtout, ils imaginaient que derrière les jansénistes se cachaient des protestants. Puisque je vous rappelle que nous étions en pleine... Enfin, c'était les derniers soubresauts de la contre-réforme, enfin, que nous étions... là aussi, la chrétienté latine était, très perturbée depuis le lancement, je ne veux pas dire l'hérésie, parce que c'est un point de vue catholique, protestant. Alors, ils décident, pour contrebalancer les idées... justement de ce qu'il considérait comme ses adversaires ou les adversaires de la ligne romaine, il décide de favoriser la parution d'une revue scientifique étant entendu au sens large, c'est-à-dire ce que nous appelons aujourd'hui les sciences humaines en général, mais aussi la théologie, les sciences physiques, etc., etc., qui consisterait à procéder à une lecture critique, c'est-à-dire des comptes rendus critiques de tout ce qui paraissait en Europe, en essayant de rétablir tout ce qui n'était pas conforme à la doctrine chrétienne, et de ramener tout ça à la doctrine chrétienne. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait ? À qui confier ça ? Il y avait déjà le Journal des Savants, mais le Journal des Savants était... ça collait pas, si vous voulez, avec ce que voulait faire vraiment le monarque. Alors, il a pensé aux jésuites, et il faut se rappeler que les jésuites, ou bien comprendre plutôt, parce qu'on a des difficultés aujourd'hui à mesurer ça, à comprendre ça, c'est que les jésuites occupaient pendant plus d'un siècle... presque deux siècles, ont exercé une espèce de domination intellectuelle et culturelle sur l'Europe. Ça, il faut bien comprendre ça, pour comprendre le choix. Et puis, il faut aussi se rappeler que les jésuites, c'était leur mission, puisqu'ils avaient été créés au milieu du XVIe siècle par la papauté pour pouvoir lutter sur le plan doctrinal, c'est-à-dire expliquer, mais aussi convaincre que les idées du catholicisme étaient les meilleures. Bon. et que les protestants se trompaient sur le plan théologique. Alors,
sous quelle forme donc cette revue ?
Alors la forme est très simple, donc c'est une forme particulière. Alors, il a confié la direction de cette revue, c'est-à-dire la confection et la direction de cette revue aux jésuites, et les jésuites ont amené une façon de concevoir les comptes rendus très particulière. Ils appelaient ça des extraits. C'est-à-dire, l'idée, c'était de donner, comme tout extrait, une idée de ce qu'était le livre. Mais pour faire ça, ils ont utilisé une méthode particulière, en ce sens que il y a toujours au bout d'un certain moment, quand vous lisez ces articles, vous ne savez plus qui écrit. C'est-à-dire, si c'est le recenseur, enfin celui qui fait le compte-rendu, ou si c'est l'auteur du livre. C'est-à-dire que, sous couvert de l'auteur du livre, on arrive par un procédé du discours assez extraordinaire, je dois dire, l'emploi de... Enfin, assez impersonnel, on a fait ceci, on a dit cela, etc. Et avec des citations qui sont, là aussi, un petit peu, on dirait aujourd'hui, dans un certain langage, embrumées. On ne sait plus trop, et ça a la vertu, eh bien, de rétablir les choses naturellement et de dire, voyez, monsieur Untel, il est dans la norme, ou il a pas écrit de choses qui débordent. Bon, voilà.
Il y a aussi une notion très franche d'appropriation du savoir.
Oui, c'est pas tout à fait, ça va pas jusque là, mais ça va jusqu'à. Allez, c'est un peu le maître d'école ou le professeur ou le moniteur qui corrige une copie, quoi. C'est toujours un peu ça, d'ailleurs. Quand vous lisez la prose jésuite et certains commentaires... Alors, je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre. Bon, tous les auteurs qui écrivent des livres en Europe, où sont présents les jésuites, hein, c'est-à-dire bon, la France, bien sûr, mais l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, bon, l'Angleterre est déjà dans l'anglicanisme, donc on n'en parle pas, mais aussi en Tchécoslovaquie, dans ce qu'on appellera plus tard les empires centraux, l'Europe centrale, eh bien, ce sont des anciens élèves des collèges de jésuites. Alors, eh bien, on continue à les considérer un peu, c'est cette impression qu'on a, on continue à les considérer comme des élèves et puis ils corrigent une copie. Enfin, Voltaire, par exemple, on n'a pas les... Malheureusement, bon, les mémoires de Trévoux ont été éditées entre 1701 et 1767, mais les jésuites se sont arrêtés d'y écrire et de diriger en 1762, quand ils ont été condamnés par les parlements et juste avant qu'ils soient expulsés de France par le roi Louis XV et par la suite que l'ordre soit interdit, quelques années ensuite. Donc ils n'ont pas... comment vous dire ? Ils n'ont pas réussi à... À capter tout ça, ils ont formulé des critiques sans formuler des critiques sur ces auteurs, ce qui fait que moi j'avoue que c'est une mine de renseignements, hein, parce qu'ils abordent tous les sujets, alors j'ai oublié de dire ça. Donc ils abordent tous les sujets, vous avez des recensions, enfin des comptes rendus d'ouvrages sur la chirurgie qui était au balbutiement, par exemple de la cataracte. On commençait à opérer les cataractes à l'époque. Enfin, vous avez des textes là-dessus.
Il faut aussi préciser que c'était sous forme de fascicules. Et donc un format
très accessible. Voilà, il y a eu jusqu'à un millier d'abonnés. Il se chargeait de l'envoi et du postage, si vous voulez. Ils ont eu jusqu'à 1000 abonnés en France, ce qui est quand même pour l'époque considérable, ce qui leur a posé d'ailleurs des problèmes de logistique incroyables, qui n'ont pas... Et tout ça à partir de Trévoux. Enfin, Trévoux, c'est dans l'Ain. C'est une petite ville qui existe encore, où on cultive toujours le... comment dire, le souvenir des jésuites, la mémoire des jésuites, et parce qu'il y avait une imprimerie, si vous voulez. Enfin, bon, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais disons qu'un des fils naturel et légitimé de Louis XIV avait été prince de Dombes, et c'était Trévoux était dans l'ancienne principauté de Dombes. Et il y avait une imprimerie, et elle lui appartenait. Donc, ils ont délocalisé parce qu'il y avait des histoires de concurrence à Paris, ils ont délocalisé l'imprimerie et la maison d'édition. Mais évidemment, de Trévoux, à l'époque, distribuer ça dans des délais acceptables dans toute la France, ça a posé des problèmes. Ce qui fait que même, ils étaient très performants, mais enfin quand même, ils étaient tributaires des moyens de transport, etc. Bon. Et ils ont délocalisé assez vite à Paris, et ça a été pris en charge par le collège, enfin l'ancien collège Louis le Grand, puisque c'était le collège des jésuites, et par les savants, les jésuites qui étaient des savants, qui écrivaient déjà des ouvrages, savants, et qui étaient, entretenus comme tels pour écrire des ouvrages contre les protestants, contre les athées, etc., etc. Et voilà, donc c'est ces gens-là qui c'était aux mains de ces gens-là qui étaient en réalité des intellectuels de l'époque. Oui, donc, et avec à l'époque, on avait un savoir plus ou moins encyclopédique, c'est-à-dire que vous aviez des professeurs de philosophie qui étaient des savants, mathématiciens ou physiciens en même temps. C'est pas concevable aujourd'hui ça, mais
d'ailleurs à ce propos, donc nous avons bien compris que les mémoires de Trévoux brossent un paysage intellectuel du début du XVIIIe siècle. Et on peut peut-être commencer à rentrer un petit peu dans le détail, puisque vous, Bernard Barthé, vous nous présentez ce paysage autour du bien commun et de l'économie, mais pas seulement.
Non. Alors, pourquoi, peut-être on pourrait parler pourquoi l'économie, pourquoi oui, ça a un intérêt, enfin,
pourquoi le bien
d'abord,
commun
d'abord la
bien
société, commun. Et pourquoi la société, enfin, et pourquoi l'économique et le sociétal, parce que parler de social, ce terme a une connotation aujourd'hui qui n'était pas du tout celle de l'époque, donc d'ailleurs c'est un mot qui n'existait pratiquement pas, et que l'on utilisait de temps en temps pour parler des hôpitaux ou autres, mais c'est à peu près tout. Et ils ont, au début dans la première partie du XVIIIe siècle, commence à sortir des traités d'économie. C'est-à-dire qu'on commence à chercher à mettre sous forme de loi, à déterminer les lois du mouvement, du circuit économique, de comment ça fonctionne, l'économie, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis la fin du XVIIe siècle et depuis la glorieuse révolution anglaise, le Parlement anglais a pris le pas définitivement sur le roi, c'est-à-dire plus d'absolutisme. Enfin, l'opération avait déjà été engagée bien avant, mais enfin là, elle a été formalisée d'une façon définitive. Et qu'à l'époque, c'était le Parti libéral qui n'existe quasiment plus en Grande-Bretagne, le Parti Whigs qui était au pouvoir et qui s'est lancé dans une conquête commerciale du monde. Et que la France... Alors, vous voyez, c'est intéressant aussi parce qu'il y a bien des problèmes que l'on connaît aujourd'hui et qui... ça vient de loin, tout ça. C'est pour ça qu'il faut enseigner l'histoire, mais il faut l'enseigner correctement. Et c'est... Bon, je ne veux pas dire que ce n'est pas toujours fait, mais enfin, comme ça. Mais enfin, je me mets aussi à la place des enseignants qui doivent être parfois en histoire découragés de ce que l'on a fait maintenant de leur discipline. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Alors, les Anglais sont lancés là-dedans. Et la France va essayer de s'opposer à ça ou de prendre sa part du gâteau, de concurrencer ça. Et notre histoire, l'histoire des rapports franco-anglais depuis cette période, elle est une histoire d'une conquête de suprématie européenne, bien sûr, mais aussi d'hégémonie européenne et de conquête économique mondiale. Et c'est ça qui a amené après la colonisation, mais ça a déjà commencé là, et ça s'est traduit par des engagements militaires, puisqu'on a parlé, on parle, les historiens parlent, de seconde guerre de 100 ans. Cette guerre qui prend naissance là, elle a fini en réalité après Waterloo. Hein. Ça fait tout ça avec des longues interruptions, mais ça a repris. Donc, les jésuites voient que il s'écrit beaucoup de traités en Angleterre, de traités économiques, puisque les Anglais, alors, et qui sont des pragmatiques, comme vous le savez, ont commencé à théoriser ce qu'on n'appelait pas encore le libéralisme économique, mais qui était déjà une espèce de libéralisme protectionniste. Alors, ils ont mis en place des droits de douane, des réglementations extraordinaires qui leur étaient bien entendu favorables et qui leur a permis... On a essayé de faire pareil, mais ça n'a pas très bien marché. Colbert, ça n'a pas très bien marché. Mais ça leur a permis de prendre pas mal d'avance. Et c'est la période où on commence à sortir. Alors, ces idées arrivent avec difficulté sur le continent, pénétrer avec difficulté sur le continent, et surtout, parce que le continent est resté, en gros, mercantiliste, c'est-à-dire la richesse d'un pays, la richesse du prince, elle est fonction de l'or, de l'argent que l'on gagne. C'est la vieille idée qui a présidé l'histoire de l'Espagne, à un degré moindre, celle du Portugal, qui n'ont pas su profiter, je dirais, intelligemment, enfin, je ne le dis pas de façon négative, mais qui ont fait des erreurs colossales avec ça, parce que les masses d'or et d'argent qui arrivaient, hein, d'Amérique du Sud, ont été utilisées. Bon, c'est formidable, quand vous êtes riche, on ne travaille plus. Déjà, on ne commence pas à plus travailler, vous n'avez plus d'économie. Et seulement, vous êtes bien obligé de vivre, de manger, de boire, d'avoir des matériaux de construction, etc. etc. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, vous achetez à l'étranger. Et puis, votre or part à l'étranger, ce qui fait qu'au bout d'un siècle ou deux, vous retrouvez complètement anéanti et que c'est la crise totale. Et bien sûr, entre-temps, les Hollandais et les Anglais en ont profité, bien sûr. Voilà, donc tout ça, alors on commence à traduire aussi ces ouvrages qui paraissent en anglais. Alors, vous savez que l'anglais n'était pas une langue comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que l'anglais c'était une sous-langue à l'époque, à ces époques-là. Quand on traduisait un best-seller en Europe, on ne le traduisait pas en anglais, quel qu'il soit, on le traduisait dans les langues qui étaient les plus courantes et les plus recherchées, c'est-à-dire le français, l'italien, l'espagnol et l'allemand. Les Anglais, ce n'est venu. Même d'ailleurs, il y a eu très tardivement, les Anglais ont commencé eux-mêmes très tardivement. Souvent, les premières éditions d'ouvrages célèbres anglais n'étaient pas écrits en anglais, ils étaient écrits en latin. Hein? Bon, le virage du latin, on n'a plus utilisé, enfin, comme langage scientifique, on n'a plus utilisé le latin à partir d'en gros la toute fin du XVIIe siècle. Mais avec des variantes, dans certains pays, ont continué à écrire, etc. etc. Donc, ce qui est important, c'est que ces ouvrages étaient traduits par des jeunes économistes qui étaient sous le contrôle du contrôleur général des finances, qui en France était réformiste, assez réformiste. Mais ces idées ont été très difficiles à inculquer, d'autant qu'entre-temps, une doctrine un peu intermédiaire a commencé à fleurir en France, qui s'appelle la doctrine physiocratique. Et tout ça grâce à l'entourage de son promoteur, le docteur Quesnay, qui était c'était un chirurgien au départ, qui était le médecin de Madame de Pompadour. Et tout le monde s'esclaffait à Versailles. Tout le monde était content de faire circuler le fameux tableau en zigzag là, qui montrait... En analogie avec la circulation sanguine qui venait d'être découverte quelques décennies auparavant, qui montrait que l'économie, ça fonctionnait comme le sang circule dans l'être humain. Quoi. Voilà. En gros, c'est à peu près ça. Mais on continuait à dire que l'agriculture était la principale des ressources, que c'était elle qui engendrait une plus grande population, etc., etc., que c'était ça la force d'un État. On ne disait pas que c'était les commerçants. Les commerçants, ils étaient comme les avocats, considérés comme des gens qui ne servaient pas à grand-chose. Et le pire, c'est que l'industrie, c'était pas loin de penser... Oui, pardonnez-moi pour les avocats, mais c'est la réalité, la triste réalité. voilà.
Mais n'y a-t-il pas un paradoxe là-dedans, puisque là on parle d'économie, donc on voit que donc les jésuites s'intéressent et s'occupent beaucoup d'économie, de richesse, mais il y a quand même un discrédit envers les nouvelles formes et les nouveaux systèmes philosophiques qui commence à poindre dans le siècle des Lumières, et notamment donc les systèmes, on va dire, de Spinoza, Locke, et qui sont qualifiés, on va dire, de matérialistes et d'incrédules. Donc comment arriver à résoudre ce paradoxe?
On ne sait pas. Oui, ça peut paraître paradoxal, mais en s'engageant dans cette opération des mémoires de Trévoux, qui est une opération journalistique, parce qu'en plus des mémoires de Trévoux, de cette revue, ils ont écrit, ils ont promu un énorme dictionnaire, qui est une sorte d'encyclopédie, qui a connu jusqu'à 8 éditions entre 1704 et 1771, et à chaque fois, il y avait de plus en plus de volumes. Ça a terminé, alors ce sont des gros bouquins énormes comme ça, chaque tome. Et malheureusement pour eux, ça s'est fait au moment où l'encyclopédie a été lancée par Diderot alors, et d'Alembert. Inutile de vous dire qu'ils n'étaient pas très contents, donc ils se sont mis à attaquer Diderot en disant mais il a copié le chancelier Bacon, enfin il l'a même outragé, parce que, et indirectement il nous a outragé parce que Bacon, l'écrivain la Nouvelle Atlantide, était pro-jésuite, enfin, etc. Et nous aimait bien dans le rôle que nous avions au niveau européen pour l'enseignement. Bon. Mais au-delà de ça, leur mission, c'était de, sur le plan enfin, théologique et donc philosophique, était de remettre dans le droit, dans ce qu'ils estimaient le droit chemin, toutes les philosophies qui pouvaient être considérées comme déviantes. Alors, quelle était leur ligne ? Leur ligne, les jésuites ont choisi, comme je dirais cheval de bataille, Aristote. Les jésuites sont aristotéliciens contre Platon. Platon est dangereux, il ne cesse de le dire, parce qu'il est très proche dans ses conceptions de la religion, de la doctrine chrétienne, c'est dangereux. Bon. Celui qui menait la danse au plan doctrinal chez les jésuites, c'est un jésuite qui est devenu cardinal, qui s'appelait Bellarmino, c'est un italien, et pour vous donner une idée, c'est lui qui, dans sa jeunesse, a mené le procès en hérésie contre Galilée. Mais un homme qui était quand même prodigieusement intelligent et qui n'était pas borné, hein, il ne faut pas s'imaginer, mais enfin bon, ça donne un peu une idée. Alors, mais c'est un Aristote qui est vu par la lorgnette de Thomas d'Aquin, et c'est là où on commence à voir, les jésuites reprennent à leur compte les idées fondamentale pour l'organisation de la société et l'organisation économique, des rapports économiques, qui est l'idée du bien commun. Bon, enrichissement du prince, l'enrichissement du roi, ça on savait. Et si déjà le mercantilisme avait amené ça, il faut être riche pour pouvoir distribuer. Mais justement, il faut être riche pour pouvoir assurer le bien commun. Alors qu'est-ce que c'est le bien commun ? C'est une mission. On considère que dans l'idéologie jésuites de cette époque, on considère que le monarque, d'abord le meilleur système c'est la monarchie, parce que tout le reste ça amène la pagaille, etc., etc., monarchie, mais c'est pas un monarque absolu, hein. Il faut pas croire que ce soit un monarque absolu, hein. C'est un monarque qui rend des comptes, absolu ça veut dire qui est dégagé de tout compte à rendre, hein, absolvere, absous. Bon, il rend des comptes, et notamment le premier compte qu'il doit rendre, c'est d'assurer le bien commun de son peuple, c'est-à-dire lui assurer une tranquillité d'esprit, mais qui passe, et ça c'est très présent dans Thomas d'Aquin, dans la somme théologique, qui assure d'abord la nourriture du corps, il faut s'assurer, il faut que les gens aient à manger, il faut que les gens, etc., etc. Ça paraît très éloigné de l'idée qu'on se fait d'un philosophe comme Thomas d'Aquin, mais pas du tout, hein. Tout ça est très très présent. Et c'est ça le bien commun. Donc, on s'enrichit, d'accord, mais c'est pour redistribuer et assurer le bien commun. Bien entendu, malheureusement, tout ça n'est que théorique, parce que ne peut être que théorique, parce que... Mais d'ailleurs, regardez notre prix Nobel en économie qui fait la une des... Justement, en bas, dans le magasin, entre autres, il vient d'écrire un livre où il apparaît que le terme bien commun apparaît. Donc c'est une idée qui est permanente. Et c'est une bonne idée. C'est pas une idée chrétienne, hein. Elle a été reprise par les chrétiens, mais c'est pas une idée qui est chrétienne au départ, hein. Aristote n'avait rien à voir avec le christianisme, même s'il a été récupéré pour essayer de faire une synthèse. Mais c'est pas ça, hein. Voilà, donc tout ce qui sort, tout ce qui dévie. Alors par exemple Montesquieu. Bon, ben Montesquieu, Montesquieu, l'esprit des lois, c'est pourquoi ils ont initié, enfin, ils ont initié, ils ont été amenés, forcés à initier la querelle de l'esprit des lois, tout simplement parce que c'est un des lecteurs des Mémoires de Trévoux, un de leurs abonnés, qui un jour a écrit, parce que les lecteurs écrivaient comme ça, et alors, souvent les gens écrivaient sous l'anonymat à l'époque, hein, et il répondait, mais il ne répondait pas forcément par une lettre, il répondait par un article, etc. Puis souvent, longtemps après, pas tout de suite, on laissait calmer un peu le jeu. Bon. Et il y a un lecteur qui, des années après l'apparition de l'Esprit des lois, je vous rappelle que la première édition c'est en 1748, à Genève, il dit, mais pourquoi vous n'avez jamais parlé de l'Esprit des lois? Pourquoi vous ne l'avez jamais critiqué? Enfin, critique au sens noble. Alors, ils se sont embarqués là-dedans, ils ont fait répondre par d'autres personnes qui... Bon. Et c'est comme ça que ça a démarré. Bon, vous savez que cette affaire a tourné court, que finalement, jamais personne, enfin en dehors de l'université de la Sorbonne, jamais personne, ça ne s'est jamais traduit par une condamnation en bonne et due forme après des années de Montesquieu, puisque l'affaire a pourri. Mais il n'a jamais répondu. Hein, Montesquieu, vraiment, au plus fort de sa critique, au plus chaud, il n'a jamais répondu. Et les jésuites lui reprochaient quoi? Ils lui reprochaient, par exemple, ils lui reprochaient finalement son relativisme. Puisque, évidemment, avoir la foi, c'est être dans un absolu. Et dès qu'on commence à prendre quelques distances, ce qui était le cas c'est une pensée relativiste, Montesquieu, la pensée de Montesquieu. Et alors, la théorie des climats, j'en parle pas. Il n'était pas du tout adepte de ça. Mais enfin, au fond. Je crois qu'il se serait bien passé ils ont été un peu contraints de lancer le mouvement. Non, celui qu'ils ont vraiment combattu, c'est, je ne parle que des plus célèbres et ce qui intéresse notre sujet, parce qu'il y en a eu d'autres, hein, sur des plans théologiques ou autres, mais ça n'a pas grand intérêt ce soir. Je crois que c'est Diderot. Là, Diderot, c'était un concurrent direct et ils l'ont pas épargné. Hein, ils l'ont pas épargné. Mais Voltaire, par exemple, alors c'est très intéressant de voir, Voltaire et Rousseau, c'est très intéressant, comme ils se sont arrêtés d'écrire en 1762, vous comprenez aisément qu'ils n'ont connu, ils n'ont pu critiquer que le jeune Voltaire, que les premiers écrits de Voltaire. Et les premiers écrits de Voltaire, c'était surtout des poèmes et surtout ces pièces de théâtre, qui est Micromégas et l'autre, là, j'ai oublié le nom. Bon, enfin, peu importe. Et Zadig, voilà. Zadig et Micromégas, et ils ont... Alors, ils étaient fascinés, parce que, bon, parmi les admirations des jésuites, ce qu'admiraient les jésuites, il y avait la poésie. Ils ont toujours été des fanatiques de poésie, notamment la poésie latine, alors Horace, Ovide, etc. Et ils étaient fascinés par la facilité et la légèreté des poèmes de Voltaire. Donc, les critiques, contrairement à ce qu'on... Moi, j'étais étonné quand j'ai lu ça au début. Ils étaient très, très emphatiques. Enfin, c'est formidable. Bon, évidemment, après, dès qu'il a commencé... Il y a une première recension. Dès qu'il a commencé à parler de se mêler un peu de politique, là, ça, on sentait que, et de religion surtout, là, on sentait que ça, pour eux, ça dérapait. Donc, puisqu'il y a même un texte où on dit... où ils disent, où ils écrivent, il vaudrait mieux qu'ils s'occupent, continuent à s'occuper de poésie. Enfin, c'était ça que de s'occuper de religion, etc. Bon, voilà. Rousseau, ils n'ont pas eu le temps, et ça, je crois que c'est dommage, ils n'ont pas eu le temps et la possibilité de faire la critique de l'Émile. Ça, je crois que ça aurait été intéressant de voir ce qu'ils pensaient de l'Émile. Bon, voilà.
Au-delà de ça, Bernard Barthé, vous ne pensez pas qu'il y a en fait une friction clair et net entre cet humanisme des jésuites qui est un humanisme de la Renaissance avec l'humanisme des Lumières? Est-ce que c'est plutôt ce témoignage-là que nous...
Alors, les jésuites sont, il ne faut jamais oublier ça, à l'image d'Ignace de Loyola, sont des hommes de la Renaissance. Hein, c'est ça. Qui sont un peu perdus dans le monde des Lumières. C'est un peu, c'est ça, hein, il faut bien comprendre ça. Et partant de là, ils se sentent pas très à l'aise, ils sont un peu dépassés, ils sont déjà dépassés quand ils commencent, parce que quand ils commencent à écrire dans la mémoire de Trévoux, ils sont déjà, enfin, l'élitisme pratiqué dans les collèges commence déjà à montrer ses limites parce que la société a changé. C'est le problème quand on veut défendre un dogme à travers des époques différentes qui changent, tout évolue. Mais le dogme, c'est par essence, ça ne doit pas évoluer. Et c'est pas adaptable, donc il y a quelque chose qui colle pas, quoi. Mais ils s'en sont rendus compte, je crois, parce que les dernières années où ils ont fait des recensions, d'abord, ils étaient pris par le volume de ce qui paraissait. Ils n'arrivaient plus à suivre, quoi. Or, là, si vous ne faites pas la critique dans les années immédiates qui suivent, parce que bon, ce n'était pas comme maintenant, ce n'était pas dans les mois qui suivaient, c'était quelquefois 2 ans, 3 ans. Mais si vous, 10 ans après, c'est fini, quoi. L'impact du livre est derrière vous et ça n'a plus aucun intérêt. Voilà. Oui, bien sûr, mais je crois que c'est tout aussi là. Enfin, moi, je considère que c'est un peu la. Enfin, parfois, ces combats inutiles ont un certain panache, quoi. Je crois que c'est. Bon, même s'ils sont perdus d'avance. Bon. Mais je crois qu'ils s'en rendaient compte parce que on le voit dans la critique économique du. Ils ont défendu les vertus du prêt intérêt, par exemple. On continue encore au XVIIIe siècle à essayer de défendre ça. À la fin, il y a une phrase, dans le dernier article qu'ils ont écrit là-dessus, la dernière recension, il y a une phrase qui est quand même assez frappante, mais en gros, ça veut dire. Mais qui se préoccupe encore de la théologie, qui se préoccupe de tout ça, le commerce a pris le pas, quoi. La société, c'est déjà. Le personnage du négociant est déjà un phare culturel, quelqu'un qu'on doit imiter. Enfin bon,
Oui.
vous savez, on a peine à encore une fois imaginer l'enrichissement de notre pays dans la première partie du XVIIIe siècle. Vous avez des gens qui ont constitué des fortunes colossales, colossales. Notamment, je pense à un dénommé Crozat, qui était enfin, qui avait commencé par un fermier, si vous voulez. C'était un fermier, mais au sens de fermier général, c'est-à-dire qu'il avait constitué une fortune et il procédait au recouvrement des impôts, moyennant avance à l'État, puisque vous savez que l'État royal n'avait pas d'administration des finances. Donc, il pratiquait ce qu'on appelle l'affermage, c'est-à-dire qu'il mettait en adjudication, plus offrant, bon, selon une certaine procédure dans laquelle on ne va pas rentrer, et cette personne avançait la somme globale qu'on voulait encaisser, à charge pour lui, à ses frais, d'aller récupérer auprès des imposables. Mais ça rapportait énormément tout ça. Ça rapportait plus que les rentes. Ça rapportait 2 ou 3% de plus, d'après les chiffres qu'on a pu calculer, que le rendement d'une rente, quoi, le placement habituel sur l'hôtel de ville de Paris ou autre, d'emprunt ou autre. Donc, ils sont allés. Ce Crozat a réussi en 1712 à obtenir de Louis XIV l'exploitation, le bail à exploiter exclusivement la Louisiane. Il s'est fait un fric fou. Je ne vous parle pas de Saint-Domingue, on va peut-être en parler tout à l'heure pour l'esclavage, mais c'est fou. Et à tel point que il a fait construire pour sa fille, alors vous connaissez la place Vendôme à Paris, bon, la place Vendôme, voyez-vous le Ritz? Vous êtes en face du Ritz, vous avez à gauche le ministère de la Justice, vous avez le Ritz. À droite, vous avez un angle. Dans l'angle, il y a un hôtel. Ça s'appelle l'Hôtel d'Evreux. Quand vous irez à Paris, vous regarderez. Hôtel d'Evreux, c'était à lui tout ça. Et tout ce qu'il y a derrière, il a donné ça dans la corbeille de mariage pour sa fille, au comte d'Evreux. Et le comte d'Evreux, lui, il habitait l'Élysée. C'était à lui, vous voyez. Alors, vous voyez le genre auquel niveau. Hein. Alors, ce type-là a été redressé par la cour compétente des années après, mais on n'a jamais pu savoir le montant exact, avoir le montant exact de sa fortune. Il investissait aussi, il avait investi également la peinture. Il s'était constitué un patrimoine de tableaux des plus grands maîtres de l'époque. Il avait à peu près 500 tableaux, on a recensé. Un de ses fils, longtemps après, avait besoin d'argent. Il a vendu ses tableaux, et notamment tous les Watteau. Il les a vendus à qui? Il les a vendus à Catherine II de Russie, qui voulait constituer le musée de l'Ermitage, par l'entremise de... Alors, il s'est fait connaître par ce type-là, il s'appelait le baron de Thiers, de Diderot, qui cherchait de l'argent pour financer son encyclopédie. Il s'est débrouillé, il a vendu... Enfin, après, il s'est plaint, il a fait un procès à Diderot en disant que des années après, il avait mal vendu. Enfin, bon. Et c'est comme ça que si vous allez à l'Ermitage, vous avez tous les Watteau, entre autres, qui sont là-bas. Ça vient de là, vous voyez, ce type-là. Ça vient d'un particulier. Il y a plein de choses comme ça. Mais il n'avait pas que c'est colossal, quoi. Aujourd'hui, ce serait... Bon. Alors, évidemment, les jésuites et tout ça, on avait beau s'approcher un peu dans le désert, quoi.
Hein? D'autant plus, comme vous l'avez souligné, que le commerce a pris le pas. Mais au XVIIIe siècle, on peut parler de commerce triangulaire. Et forcément, donc témoins de leur temps, les jésuites ont dû prendre position.
Alors justement, ils n'ont pas pris position. Parce que, alors, on va parler un peu d'esclavage. Je pense que c'est ça que vous voulez, hein, qu'on parle d'esclavage un petit peu. Bon, bon c'est des thèmes à la mode, et heureusement à la mode. Mais il faut rétablir certaines choses. Lorsque les jésuites, enfin, vous savez que les jésuites ont été envoyés en mission en Inde, puis à partir de l'Inde en Chine. Bon, je simplifie les choses. Hein. Et ils ont été aussi envoyés à une certaine période, à la fin du XVIe siècle, en mission en Amérique latine, enfin, ce que nous appelons aujourd'hui l'Amérique latine, ce qu'on appelait les Indes occidentales à l'époque. Et pourquoi ? Parce que les premiers qui étaient partis là-bas, c'était des ordres que l'on appelle mendiants, c'est-à-dire des Augustins et surtout des Franciscains. Et puis ça a été un échec assez vite. C'est pour ça que vous avez beaucoup, vous voyez, dans les envois encore en Amérique centrale, quand vous voyez des westerns et machin comme ça, on voit encore les Franciscains qui sont dans leur... Bon. Et enfin, on voit des... Bon. On les a envoyés en Amérique alors du Sud, toute la partie qui correspond aujourd'hui à l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, enfin surtout le Paraguay et l'Uruguay, mais aussi le Chili, enfin, etc. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont... Bon, d'abord, ils se sont trouvés face à des populations qui n'étaient pas les mêmes qu'en Inde et en Chine, parce que, bon, enfin, de leur point de vue... ils ont essayé de, comment dire ça, au lieu de déstructurer totalement la civilisation de locale et de récupérer, enfin bon, on connaît toutes ces critiques qui sont fondées, hein, qui ont été faites, et on sait la destruction qui a été opérée là-bas, mais c'est pas par les jésuites que ça a été opéré, ça avait été fait avant, hein, et il faut dire que les franciscains n'ont pas été très bons dans ce genre de choses, bon. C'est comme ça. Les jésuites se sont dit, mais il faut connaître les gens, il faut étudier. Qu'est-ce qu'ils... Ils se sont fait, on peut considérer que ce sont des, bon, bien sûr des sociologues, mais des premiers ethnologues. Ils ont commencé à faire un travail d'ethnologue, d'anthropologue. Et ils ont recensé tous leurs rites, leurs coutumes, etc., etc. Alors, bien entendu que c'était dans un esprit d'évangélisation, mais enfin, c'était pas, ça avait au moins la vertu de ne pas être déstructurant mentalement, ce qui est quand même assez grave. Et ils ont pensé qu'il fallait regrouper les populations pour mieux les après conversion, pour mieux les convertir et leur faire absorber, disons, et les imprégner de la religion, de la doctrine chrétienne, comme ils étaient. Alors, il y a des textes extraordinaires là-dessus où les jésuites décrivent les Indiens comme des sauvages, comme des tigres, des ours, enfin des bêtes dangereuses, des bêtes féroces, hein, donc des ennemis, et qu'il faut absolument, ils sont éparpillés dans la pampa, enfin pas dans la pampa, dans la forêt, il faut les regrouper, et puis on va les mettre dans des endroits, et puis là on va organiser, on va les sortir du chaos, on va les faire rentrer dans la civilisation, c'est-à-dire la civilisation chrétienne, occidentale chrétienne, européenne chrétienne. Et puis, tout ça va marcher. Mais alors, ça s'est fait d'une façon assez extraordinaire. Bon, alors, le film Mission, à une époque, a montré ça. Mais alors, on utilise la musique. Mais surtout, ce qu'il faut voir, ce qu'il y a derrière, c'est que l'espace qui a été recréé est un espace qui, normalement, duquel, normalement, doit se dégager de la beauté, un sentiment de beauté, parce que la beauté, et les jésuites ont beaucoup, sur d'autres plans, utilisé ça, le mot esthétique est apparu à cette période-là, mais ils ne connaissent pas encore le mot esthétique, mais il est apparu en Allemagne à peu près à la même période. Et si c'est beau, on est fait, quand quelque chose est beau, on est attiré forcément vers le divin. Voilà, l'idée c'était ça. Alors, pourquoi ils ont fait ça ? Parce que pour eux, ces sauvages représentaient, mais c'était une idée qui était partagée par pratiquement toute l'Europe à cette époque-là, on croyait que les populations que l'on appelait sauvages étaient le reflet de ce que nous, nous étions autrefois et qu'il fallait absolument les ramener dans ce que l'Apocalypse décrit comme la Jérusalem céleste. Voilà. Or, cette cité terrestre belle, c'est réduction. C'est ça. C'est, dans leur idée, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un jésuite, il y a eu beaucoup de jésuites du Tyrol allemand qui sont partis là-bas en mission. Et il y en a un qui a écrit un livre, et c'est très, un livre où il explique ça, et qui est intitulé, alors je vous le dis en français, la réduction, c'est le jardin de fleurs. C'est un jardin de fleurs. Donc c'est quelque chose de beau, mais déjà qui est aéré, enfin qui est déjà au-dessus, quoi, puisque les fleurs, alors là aussi, les fleurs, pour les jésuites, c'est quelque chose, c'est un marche-pied pour le divin aussi. Voilà. Tout ça, c'est. Alors, partant de là, vous connaissez la suite, vous savez comment ça s'est passé. Pour sauver les Indiens, on a dit ben, on va prendre des Noirs, on est allé prendre des Noirs, et puis on a organisé la traite, enfin, etc., etc. Alors, je voudrais dire deux choses. D'abord, que je crois que maintenant, plus personne ne conteste ça aujourd'hui. Bien sûr, c'est une question morale, l'esclavage, mais c'est avant tout une question économique, hein, bon, qui se teinte de morale, mais c'est avant tout une question économique. Et première chose. Et deuxième chose, que l'Église n'a jamais condamné de façon formelle et universelle l'esclavage, jamais. Il y a eu quelques condamnations, mais ponctuelles, très ponctuelles, pour des cas très précis, etc. Alors, qu'ont fait les jésuites ? Quand ils sont arrivés là, ils avaient besoin de financer leur mission, parce que c'était ça, prenait de l'argent, tout ça. Il n'y avait pas beaucoup d'argent qui venait ici un peu du roi du Portugal, au Brésil, mais enfin pas beaucoup, parce que ça ne l'intéressait pas trop. Les gens qui commençaient quand même à contester en disant... Parce que les jésuites commençaient à dire, mais attendez, ce n'est pas normal d'asservir un être humain comme nous, quoi. C'est pas, y a quelque chose qui ne va pas. Alors, bien sûr, le roi du Portugal, il n'était pas enclin à lui donner de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit, on va se débrouiller tout seul. Et ils ont... Il y avait un des jésuites, là, enfin, il y a des jésuites qui ont commencé à pratiquer du commerce. Alors, il y a eu ça. Alors, ils avaient des bateaux, ils ont acheté des bateaux, ils ont fait des transports, etc. Et puis, beaucoup de colons leur ont fait des donations, comme c'était quand ils mouraient, ils faisaient des donations. Et parmi les donations, ben, ils ont donné leurs plantations, et puis avec leurs esclaves. Alors, et puis avec leur trafic, leur bateau, qui est leur compagnie, qui faisait la traite des... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comme ils avaient besoin d'argent, ben, ils ont continué, pratiquer tout ça. Bon. Alors, ça gênait, ça coinçait, mais enfin, ça se faisait. Dans la mentalité de l'époque, ça ne gênait personne, tout ça. Hein. Il faut bien voir. Hein. Même nos chers révolutionnaires n'ont pas réussi à abolir l'esclavage. La constituante n'a jamais réussi. Hein. Voilà. Donc... Ils se sont appuyés, alors l'écrit le plus extraordinaire que l'on trouve, parce qu'il commençait à être critiqué, bien entendu, sur le fait qu'il ne prenait pas de position. Alors, il dit condamné sur le plan moral, oui, c'est pas normal, etc. Mais c'est tout, on s'arrêtait là. Et heureusement pour eux, est arrivé le Code noir en 1685, et là, ils étaient heureux, parce qu'ils pouvaient s'appuyer sur un texte... de législatif qui n'était pas un texte religieux. Et il y a carrément, alors il y a un article où carrément ils disent à l'occasion de je ne sais plus trop quoi, ils vous disent mais de toute façon c'est pas condamné sur le plan civil, donc bon, on ne condamne pas l'esclavage. Voilà ce que je voulais dire. Ça fait partie de ces je crois, qu'est-ce qu'on dit, poubelle de l'histoire, qu'est-ce qu'on dit, oui, voilà, allez.
Sur une note beaucoup plus légère, on peut quand même parler de l'affection des fleurs qu'ont les, jésuites. Et notamment, à l'époque des physiocrates, on voit quand même s'affirmer une conception jésuite de l'agriculture, avec la métaphore des abeilles et le modèle romain, et une poétique de la maison de campagne, déjà.
Oui, tout à fait, mais les Romains se sont intéressés, enfin ceux qui ont essuyé leurs pantalons dans les collèges de jésuites, comme c'est mon cas, savent que bon, chez les jésuites, on fait beaucoup de latin. Bon. Mais pourquoi on fait du latin ? Parce qu'ils ont toujours eu une admiration, l'ordre a toujours eu une admiration débordante pour la Rome antique. Et surtout ses aspects culturels, aspects de guerriers, enfin tout, organisationnel, droit, bien sûr, puisqu'ils considéraient même que le code de Justinien était à mettre juste après la Bible dans la hiérarchie des livres de l'humanité. Donc, c'est vous dire que c'est pas rien, quand même. Hein. Oui, les jardins, pourquoi ? Parce qu'il faut entretenir. Mais ça aussi, c'est une conception romaine. Vous avez ça chez tous les auteurs. Chez Horace, par exemple. Hein, l'hortus, là, qui est dans le prolongement de la maison. C'est un lieu qui contraste avec la ville. C'est un lieu apaisant, c'est toujours la même idée, c'est un lieu apaisant qui vous ouvre vers la transcendance, qui vous ouvre vers tout ça, donc vers le divin, c'est ça, c'est toujours la même chose. Donc vous voyez que finalement, ils sont quand même assez proches des idées des Lumières.
Oui, peut-être que c'est un humanisme qu'il faut peut-être prendre un petit peu plus en compte pour parler des Lumières, justement, qu'on a mis peut-être un petit peu de côté, parce que... Ouais. Autour, on va dire, des querelles autour de l'anticléricalisme éventuellement, qui sont arrivés au XIXe siècle, mais qui ont sûrement peut-être eu leur part dans l'esprit des Lumières.
Oui, enfin disons que l'anti-jésuitisme et la querelle et tous les procès qu'on a fait aux jésuites et l'expulsion, bon, résultent quand même, montrent quand même une opposition. Non, je crois que ça, c'est pas encore de l'anticléricalisme. L'anticléricalisme, il est venu au 19e siècle. Il va arriver au 19e siècle. Je crois que c'est après la Révolution, mais que la Révolution, on peut pas dire que... Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais c'est venu, ça s'est diffusé surtout après la Révolution. Non, on peut dire que les jésuites étaient, je crois, considérés comme des ennemis parce que tout simplement ils étaient trop proches du pape et qu'il y a une tradition, il y avait une tradition depuis plusieurs siècles dans l'Église de France d'être indépendante de la papauté. C'est ce qu'on appelle le gallicanisme. Et je crois que ça, c'est-à-dire on ne traite pas l'Église de France comme on traite les autres églises. Et le pape peut, a beau sortir des décrétales ou autres, il faut qu'on les adapte à la tradition en France, etc. Voilà, entre autres. Et je crois que c'est à travers ça. Et puis, vous savez, quand les collèges, quand les premiers collèges sont arrivés, ont été implantés en France, faut vous dire que l'université n'était pas très, très satisfaite. Pourquoi ? Parce que les jésuites pratiquaient la gratuité de l'enseignement. Et surtout, le pape les avait autorisés à pratiquer aussi la collation des grades universitaires. J'ai dû vous dire qu'à la Sorbonne, ils n'étaient pas très contents. Hein. Et ça s'est très mal passé. Et d'entrée, dès la fin du XVIe siècle, il y a eu des procès pour les interdire le collège de Clermont à l'époque, avant que ça s'appelle le collège Louis le Grand. Et puis ça n'a jamais pu fonctionner parce que le roi, la royauté les a soutenus. En contrepartie, ils ont soutenu la royauté, etc. Puis vous savez, c'est facile quand même quand vous êtes confesseur exclusif des rois, c'est facile d'aller lui dire dans le secret de l'isoloir certaines choses quand même. Hein. Donc voilà. Mais quant à l'hypocrisie, on en parle ?
Oui, disons que la tendance peut-être qu'il y avait à faire des argumentum ad hominem, c'est-à-dire des attaques à la personne, quand on n'avait pas forcément de réponse, parler un peu des polémiques, oui. Mais bon, est-ce que il ne faut pas prendre ça plutôt dans le contexte de l'époque, et surtout voir quel message peut-être on pourrait en tirer dans un autre contexte, quel contexte actuel ?
Alors, je crois qu'il faut enfin, se rappeler que le XVIIe siècle était un grand siècle de ce qu'on appelait l'invective, c'est-à-dire que les gens s'insultaient d'une façon extraordinaire, mais avec une violence qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Hein. Et ensuite, ça a été bon, la polémique. Oui, les jésuites ont beaucoup utilisé la polémique, mais je me suis aperçu qu'ils utilisaient la polémique quand ils étaient à bout d'arguments, c'est-à-dire quand il y avait plus de, ils ne savaient plus quoi, comment contrer l'adversaire, eh bien, on le critiquait. On le critiquait, mais méchamment. Alors, on utilisait parfois des termes qui étaient qu'on avait découvert récemment en médecine. Un terme, je ne me souviens plus, mais qu'on utilisait. Enfin, c'est très curieux, mais c'est très violent, très très violent. Et on n'hésitait pas à aller à faire des procès retentissants, très graves, hein, qui déconsidéraient la personne. Enfin, franchement, sur ce plan-là, nous sommes des enfants de cœur aujourd'hui. Hein. Ça, c'est, se déplace sur un autre plan. Mais enfin, on peut liquider ou lyncher, comme on dit médiatiquement, quelqu'un. On n'avait pas ces moyens à l'époque. Hein. Donc, on le faisait différemment, mais ça revient à la même chose, dans le fond. Ça revient à la même chose.
Voilà, mais par rapport à un parallèle à la situation actuelle, est-ce que il y aurait quelque chose qu'on pourrait justement autour de l'agriculture, puisque vous avez parlé que des sujets à la mode, apparemment vous les aimez bien, puisque cette agriculture-là, c'est des choses qui peuvent recouper la permaculture et une nouvelle façon de concevoir peut-être autour de l'écologie, notamment avec les prises de position.
Non, je crois que le temps de l'agriculture, il est révolu. Le temps de l'agriculture comme activité, la première activité, il est révolu.
Mais parlons d'écologie alors. Avec la prise de position du
pape. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'écologie. Je ne sais pas ce que c'est que l'écologie. J'avoue que j'ai une certaine réticence à comprendre ce que c'est véritablement, au fond, l'écologie. Moi, quand je vois des écologistes qui sont, qui sont banalisés comme un parti politique simple, qui prétend. Enfin, moi, j'avoue que je n'ai pas de. Non, je n'ai pas de. Bien sûr qu'il faut sauver la Terre, mais.
Oui, mais même dans l'attitude, on va dire, justement, autour du pape, avec sa prise de position claire et franche sur la sauvegarde de la planète. Et,
oui, mais tout le monde est d'accord là-dessus, je crois que. Mais enfin, il y a certains moyens, quoi. Il faut aussi garder les pieds sur Terre quand on parle d'énergie, par exemple. C'est tout.
Peut-être.
Il faut ramener ça à ce que nous représentons actuellement, dans notre petit pays, parce qu'il faut comprendre qu'il faut quand même se rappeler que nous sommes devenus un petit pays maintenant, banalisé, et qu'on ne peut plus continuer à raisonner comme autrefois.
Merci d'être venu.